Les mots, c'est tout. Quand on n'a pas de mots, on ne peut pas penser correctement. On ne peut pas envisager son identité, son langage, l'endroit où on habite, son pays. C'est comme si on vit à côté de soi, c'est comme un exil intérieur quand on n'a pas les bons mots pour dire ce qu'on ressent, ce qu'on est.
Semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir.
C'est d'autres gens que moi qui ne m'avaient pas oublié, qui avaient continué à chercher, qui ne s'étaient pas habitués à la violence, ne s'étaient pas résolus. Et c'est magnifique, ça.
L'oiseau vint se poser, il avait les yeux couleur.
J'ai 9 ans. Un dimanche de mai, je rentre seule de la fête de l'école. Un monsieur me suit. Un jour blanc. Après, la confusion. Année après année, avancée dans la nuit. Quand on n'a pas les mots, on se tait, on s'enferme, on s'éteint. Alors les mots, je les ai cherchés, longtemps. Et de mot en mot, je me suis mise à écrire. Je suis partie du dimanche de mai et j'ai traversé mon passé. J'ai confronté les faits et phrase après phrase, j'ai épuisé la violence à force de la nommer, de la délimiter, de la donner à voir et à comprendre. Page après page, je suis revenue à la vie. Ce sont les premiers mots d'Adélaïde Bon, qui vient tout juste de publier son premier roman, La petite fille sur la banquise, aux éditions Grasset. Dans ce livre en forme de témoignage autobiographique, Adélaïde Bon raconte l'abus sexuel dont elle a été victime à l'âge de 9 ans par un violeur en série dans la cage d'escalier de son immeuble parisien. Elle dit surtout l'amnésie post-traumatique qui l'a fait souffrir pendant des années et la façon dont l'enfouissement de cet événement a contaminé chaque seconde de son existence jusqu'à ce que 20 ans après, une enquêtrice ouvre à nouveau l'affaire classée, dite de l'électricien, qui a fait pas moins d'une centaine de victimes. Au printemps 2016, au palais de justice de Paris, Adélaïde affronte enfin le violeur en série qui a détruit sa vie. 2 ans après paraît ce roman qui résonne profondément avec l'actualité et dont l'écriture vient déterrer ses décombres intimes, dans l'urgence de témoigner, dans l'euphorie de guérir par les mots. Pour ce débat littéraire, je suis effectivement en compagnie de Sarah et Louis, et ensemble, nous allons vous donner notre avis sur ce roman dont la lecture ne peut de toute façon pas laisser indifférent. Adélaïde Bon n'a vraiment pas peur des mots et il ne s'agit pas d'une lecture facile. Donc je vous pose la question à tous les deux pour commencer. Est-ce que vous avez été touchés par ce livre? Est-ce que la charge émotionnelle d'un tel témoignage a éveillé quelque chose en vous? Et on peut dire que pour le moment, les critiques ont été très élogieuses sur ce livre. Est-ce que vous rejoignez cet engouement?
Je vais commencer par parler alors. J'ai été très très touchée par ce livre. Je ne m'attendais pas du tout à une telle vague, en fait. Et c'est un livre qui vraiment submerge. Ce n'est pas facile de le lire d'une traite. Pour ma part, j'ai vraiment dû faire des pauses. Alors que bon, certains disent qu'on est habitué au Marquis de Sade. Mais là, c'était horrible.
Et toi, Louis?
Oui, c'était clairement un coup de poing dans le ventre. Même pour moi, qui ne m'identifie même pas à ce corps de femme ou à ce vécu-là dont peut-être vous êtes plus proche en tant que femme, simplement. Ça a été un gros, une grosse surprise, et une bonne surprise, paradoxalement, même si j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le finir aussi, parce que à certains moments, c'était trop, quoi. C'était trop d'émotions, trop d'images, trop de réalisme, en fait, simplement.
Peut-être trop, et effectivement, on se rend compte que c'est un roman qui est très travaillé au niveau textuel et stylistique, avec plein d'effets. Hein. On a un jeu, par exemple, sur les pronoms personnels, avec une dissociation entre « je » et « elle », comme si cette dissociation mimait la fragmentation psychologique de l'auteur. On a aussi de multiples matières textuelles qui sont enchevêtrées, avec non seulement le roman lui-même, mais on a des passages du journal intime de l'auteur. On a des témoignages d'autres femmes victimes de Giovanni Costa, qui est le violeur en série. On a des passages où l'écriture devient une sorte de vers libre avec des mots très crus. Ça, ce sont les moments où Adélaïde a des flashs, en fait, de l'événement traumatique. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette construction textuelle? Est-ce que vous trouvez qu'elle apporte au livre?
Eh bien oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai dit la dernière fois en cours que j'aimais beaucoup les pronoms. Et un autre point sur les pronoms que je trouvais de très intéressant, c'est qu'elle utilise beaucoup le « tu », donc une adresse à ce violeur en série, qui est quand même assez violente, parce que nous, en tant que lecteurs, on reçoit ce « tu ». Et en fait, je viens de vérifier, là, la dédicace du livre, c'est quand même à ses héroïnes. Et du coup, ça accentue aussi le jeu et toute la complexité de ce livre, je trouve. Enfin, ça le rend encore plus riche. Et puis, il y a tous les effets circulaires. On parlait tout à l'heure, dans les sièges de la Cantor, de la pomme croquée, qui est une image assez forte et qui revient souvent dans le livre.
Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, à partir du moment où elle est apostrophée par son violeur au moment du viol, où le violeur la tutoie en lui faisant cette violence-là, elle ne peut plus utiliser le « je » impunément. Et donc elle va passer au « elle », et les trois quarts du roman vont se passer au « elle va parler d'elle » à la troisième personne du singulier, tout en réinjectant parfois à des moments, à mesure que la thérapie avance un petit peu, des petits jeux, des petits paragraphes au jeu, qui vont montrer une petite reconstruction. Et ce que je trouve très très fort, c'est qu'à la fin, alors je ne pense pas que ce soit... vraiment pour gâcher le roman, mais à la fin ça devient un nous, ça devient le nous des victimes collectives, le nous des victimes du procès qui s'impose comme une espèce de force commune, collective contre ce tu, effectivement, qui est apostrophé pendant tout le roman.
Alors justement, avec ce nous, Adélaïde Bon rejoint profondément l'actualité et la libération actuelle de la parole des femmes. Comme si toutes les victimes parlaient, comme s'il s'agissait d'un témoignage collectif. Et à plusieurs reprises, l'auteur adopte un ton qu'on pourrait clairement dire polémique. On a l'impression qu'elle interpelle la société sur la question du viol. Elle a des propos féministes et engagés très clairs. En plus de ce viol qu'elle a subi, elle décrit l'oppression quotidienne et insidieuse des hommes sur les femmes. Alors je voudrais savoir ce que vous avez pensé tous les deux de ce rapport du livre à l'actualité et aussi à la politique qui est très présente, parce que dans ce livre, Adélaïde Bon remercie la justice d'avoir fait son travail, elle remercie presque l'État.
On en discutait aussi, mais de toute façon on a un peu discuté du livre avant de le commenter maintenant en direct. Et j'ai découvert vraiment tout un versant féministe qui se justifie, je pense. Avant, je me disais que parfois certains propos étaient quand même exagérés. Et là, avec ce livre qui porte sur des actions exagérées de la part d'un homme sur des petites filles, je me suis rendu compte à quel point en fait le discours de certaines féministes n'était pas tellement exagéré, que c'est vrai tout ce qui est dit dedans. Après, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle introduisait une certaine dose de théorisation de ses propres syndromes, de sa propre maladie, je pense qu'on peut l'appeler.
L'amnésie post-traumatique.
L'amnésie post-traumatique. Alors, elle a tout. Dans le roman, elle raconte tout. J'ai dénombré 10 syndromes, on va dire 10 symptômes. Il y a l'autoflagellation. Il y a la mythomanie, l'anorexie, la boulimie, la paranoïa, l'amnésie, évidemment, l'épilepsie, l'insomnie, le mutisme, la nymphomanie. Enfin bon, elle a vraiment un espèce de tour d'horizon des maladies possibles post-traumatiques qui donne aussi un tour d'horizon des manières de se guérir et des manières de penser la guérison la thérapie classique à quelque chose peut-être de plus... mystique. D'ailleurs, elle raconte qu'elle a une expérience de mort imminente au début du livre. Il y a comme ça un versant un peu où elle va chercher chez les tarologues, chez d'autres personnes la possibilité de guérison, et qui m'ont amené à penser qu'en fait cette théorisation, c'était peut-être une manière de faire glisser ce récit extrêmement, peut-être, enfin pas trop, mais très très fort parce que réaliste, vers un conte ou quelque chose de très emblématique, en fait, de très symbolique. À ce niveau-là, au niveau de la maladie, et d'être une victime qui rejoint le nous.
Et ce qui est très intéressant aussi, pardon, je vous ai peut-être interrompu, mais c'est que, je pense à ça à cause de tous les symptômes que tu as énumérés, c'est qu'en fait, elle est capable de mêler différents discours. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous, lecteurs, qui ne sommes pas forcément au courant de ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a subi ce genre d'histoire. Et c'est vrai qu'on a des discours très théoriques, des discours de personnes qui travaillent dans la justice, mais aussi les discours des petites filles et tout ça. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un point fort du livre.
Oui, et Louis, tu parlais de mysticisme. Moi, je parlerais de christianisme. Je pense qu'il y a dans ce... Enfin, je pense qu'Adélaïde Bon, au moins dans son enfance, se tourne vers la religion. À plusieurs moments, elle dit qu'elle prie, des profondices, etc. Et justement, je pense qu'avec ce christianisme arrive une profonde humanité et une réelle compassion de l'auteur pour les autres victimes, pour les femmes en général, et aussi tout au long du livre, une reconnaissance, mais vraiment touchante pour tous ceux qui l'ont aidé, un amour en fait de l'humanité qui contraste d'autant plus avec la haine du coupable. Et dans tout ça, une vraie spiritualité, est-ce que vous l'avez ressenti comme moi ?
Moi, personnellement, oui. Alors, dans le même temps, cette compassion, elle s'accompagne aussi d'une incompréhension envers certains experts, envers certains policiers peut-être aussi, envers une certaine partie du système qui ne comprend pas ce que ça peut être, qui n'imagine même pas, qui n'envisage pas, parce que je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre ou imaginer ce que c'est, mais au moins s'approcher ou oui, compatir, oui, en fait, c'est ça, c'est le bon mot. Et il y a toute une partie de ce système-là qui doit faire partie de la guérison et qui est complètement étranger. Je pense à l'experte judiciaire qui a tous les mauvais mots, mais qui, encore une fois, c'est assez archétypal. À quel point elle est mauvaise en tant qu'experte judiciaire pour des victimes de ce genre de violence. Et elle dit tout à côté, quoi. Enfin, je veux dire,
Oui, qu'est-ce qu'un viol, une quinzaine de minutes dans votre vie ?
Oui, voilà, ouais, exactement. Enfin, c'est quand même hallucinant.
C'est horrible.
Alors justement, on peut finir sur l'idée que ce livre est tout entier une thérapie, une façon de combattre l'amnésie post-traumatique, de retrouver ses souvenirs, de les coucher sur le papier. Elle parle d'un rendez-vous avec elle-même. Et qu'avez-vous pensé, vous, de la façon dont l'écriture prend en charge cette catharsis et de la façon dont les réminiscences et les séquelles de l'événement sont décrites sous une forme métaphorique avec les méduses, à la fois transparentes et insidieuses? J'ai beaucoup aimé cette image parce que je trouve que c'est tout à fait ça, c'est tout à fait représentatif.
Oui, puis en plus ça fait écho à Méduse, le personnage qu'elle cite d'ailleurs à la fin du livre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait dans ce livre, elle parle de toutes ses tentatives d'écriture. Et ça, j'ai trouvé que c'était touchant. Et on voit des parties de ses tentatives d'écriture au sein de l'ouvrage, même avec ses différents styles, lorsqu'elle parle de manière très lyrique, lorsqu'elle parle tout d'un coup de manière clinique. Et c'est... Je pense que ouais. Je ne finis jamais mes phrases, mais...
On a l'habitude. Bon, ben, je crois que c'est la fin de ce débat littéraire. En tout cas, une dernière question, ou répondez-moi par oui ou par non. Conseillez-vous ce livre pour nos auditeurs ?
Ah ben, je ne répondrai pas par oui ou par non, mais je dirais assurément. Je pense que c'est vraiment un très très bon livre à lire. Ça fait mal, mais ça fait du bien d'avoir mal de temps en temps.
Louis ?
Pareil.
Et moi aussi, assurément. Merci.
Merci à tous les trois pour ce débat. Je ne sais pas, on m'entend plus. Merci à tous les trois pour ce débat. Il est 13h quasiment sur Transistor. Restez avec nous.
À 13h10, nous vous donnons rendez-vous sur le grand écran avec d'étoiles plein les yeux. Mobile Homes, vous connaissez ? Eh bien, moi non plus. Enfin, vous ne m'avez pas répondu, mais je dis moi non plus. De toute façon, vous ne pouvez pas parler. Et madame non plus ne connaît pas. Alors nous sommes avides d'entendre les critiques d'Occitane, Marie et Rémi.
Mais tout de suite, on retrouve Thomas, Occitane et Thomas pour une nouvelle fiction radiophonique. Car après tout, cette journée de la radio est dédiée à la fiction. Et vu ce qu'on a eu tout à l'heure, on en redemande. Alors maintenant, je passe en mode acteur studio.